Spinoza, Éthique, traduction Charles Appoun, partie 3, propositions 15 à 32 comprises. Fichier suite 1. Proposition 15. Une chose quelconque peut être par accident cause de joie, de tristesse ou de désir. Démonstration. Supposons que l'âme soit affectée en même temps de deux affections, dont l'une n'accroît ni ne diminue sa puissance d'agir, et dont l'autre ou l'accroît ou la diminue. Voir postulat 1. Il est évident par la proposition précédente que si l'âme, plus tard, vient à être affectée de la première par l'action d'une cause la produisant vraiment, et qui, suivant l'hypothèse, n'accroît par elle-même ni ne diminue la puissance de pensée de l'âme, elle éprouvera aussitôt la deuxième affection qui accroît ou diminue sa puissance de pensée. C'est-à-dire, scoli de la proposition 11, qu'elle sera affectée de joie ou de tristesse. Et par suite, la chose qui cause la première affection sera, non par elle-même, mais par accident, cause de joie ou de tristesse. On peut voir aisément de la même façon que cette chose peut, par accident, être cause d'un désir. CQFD. Corollaire. Par cela seul que nous avons considéré une chose étant affectée d'une joie ou d'une tristesse dont elle n'était pas la cause efficiente, nous pouvons l'aimer ou la voir en haine. Démonstration. Par cela seul, en effet, il arrive, proposition 14, que l'âme, en imaginant cette chose plus tard, éprouve une affection de joie ou de tristesse, c'est-à-dire, scoli de la proposition 11, que la puissance de l'âme et du corps soit accrue ou diminuée, etc. Et conséquemment, proposition 12, que l'âme désire l'imaginer ou, corollaire de la proposition 13, est en aversion de l'imaginer. C'est-à-dire, scoli de la proposition 13, l'aime ou l'est en haine. CQFD. Scoli. Nous connaissons par là comment il peut arriver que nous aimions certaines choses ou les ayons en haine sans aucune cause connue de nous, mais seulement par sympathie, comme on dit, ou par antipathie. Il faut y ramener ces objets qui nous affectent de joie ou de tristesse par cela seul qu'ils ont quelques traits de ressemblance avec des objets nous affectant habituellement de ces sentiments, ainsi que je le montrerai dans la proposition suivante. Je sais bien que les auteurs qui les premiers ont introduit ces noms de sympathie et d'antipathie ont voulu signifier par là certaines qualités occultes des choses. Je crois néanmoins qu'il nous est permis aussi d'entendre par ces mots des qualités connues ou manifestes. Proposition 16. Par cela seul que nous imaginons qu'une chose a quelque trait de ressemblance avec un objet affectant habituellement l'âme de joie ou de tristesse, ou bien que le trait par lequel cette chose ressemble à cet objet ne soit pas la cause efficiente de ses affections, nous aimerons cependant cette chose ou l'aurons en haine. Démonstration. Nous avons considéré avec une affection de joie ou de tristesse dans l'objet lui-même, par hypothèse, le trait de ressemblance qu'a la chose avec l'objet. Par suite, proposition 14, quand l'âme sera affectée de l'image de ce trait, elle éprouvera aussitôt l'une ou l'autre de ses affections, et en conséquence, la chose que nous percevons qui a ce trait sera par accident, proposition 15, cause de joie ou de tristesse. Et ainsi, par le corollaire précédent, nous l'aimerons ou l'aurons en haine, bien que ce trait, par où elle ressemble à l'objet, ne soit pas la cause efficiente de ses affections. C'est QFD. Proposition 17. Si nous imaginons qu'une chose qui nous fait éprouver habituellement une affection de tristesse a quelque trait de ressemblance avec une autre qui nous fait éprouver habituellement une affection de joie également grande, nous l'aurons en haine et l'aimerons en même temps. Démonstration. Cette chose est, en effet, par hypothèse, cause de tristesse par elle-même et, Scully de la proposition 13, en tant que nous l'imaginons affectée de la sorte, nous l'avons en haine. Et de plus, en tant qu'elle a quelque trait de ressemblance avec une autre qui nous fait éprouver habituellement une affection de joie également grande, nous l'aimerons d'un égal élan joyeux. Proposition précédente. Nous l'aurons donc en haine et l'aimerons en même temps. C'est QFD. Scully. Cet état de l'âme qui naît de deux affections contraires s'appelle fluctuation de l'âme. Il est à l'égard de l'affection ce que le doute est à l'égard de l'imagination. Voir Scully de la proposition 44, partie 2. Et il n'y a de différence entre la fluctuation de l'âme et le doute que du plus au moins. Il faut noter seulement que, si j'ai dans la proposition précédente déduit les fluctuations de l'âme de causes qui produisent l'une des deux affections par elle-même, l'autre par accident, je l'ai fait parce que les propositions précédentes rendaient ainsi la déduction plus aisée. Mais je ne nie pas que les fluctuations de l'âme ne naissent le plus souvent d'un objet qui est cause efficiente de l'une et l'autre affection. Le corps humain, en effet, est composé, postulat 1, partie 2, d'un très grand nombre d'individus de nature différente. Et, par suite, voir l'axiome 1 venant après le lemme 3 qui suit la proposition 13, partie 2, il peut être affecté par un seul et même corps de manières très nombreuses et diverses. D'autre part, comme une seule et même chose peut être affectée de beaucoup de manières, elle pourra aussi affecter une seule et même partie du corps de manières multiples et diverses. Par où nous pouvons facilement concevoir qu'un seul et même objet peut être cause d'affections multiples et contraires. Proposition 18. L'homme éprouve par l'image d'une chose passée ou future la même affection de joie ou de tristesse que par l'image d'une chose présente. Démonstration. Aussi longtemps que l'homme est affecté de l'image d'une chose, il la considérera comme présente encore qu'elle n'existe pas. Proposition 17, partie 2, avec son corollaire. Et il ne l'imagine comme passé ou futur qu'en tant que l'image en est jointe à l'image du temps passé ou futur. Voir Scully de la proposition 44, partie 2. Considérée en elle seule, l'image d'une chose est donc la même, soit qu'on la rapporte au futur ou au passé, soit qu'on la rapporte au présent. C'est-à-dire, corollaire 2 de la proposition 16, partie 2, l'état du corps ou son affection est le même, que l'image soit celle d'une chose passée ou future, ou qu'elle soit celle d'une chose présente. Et par suite, l'affection de joie et de tristesse sera la même, que l'image soit celle d'une chose passée ou future, ou celle d'une chose présente. C'est QFD. Scully 1. J'appelle ici une chose passée ou future en tant que nous avons été ou serons affectés par elle. Par exemple, en tant que nous l'avons vue ou la verrons, qu'elle a servi à notre réfection ou y servira, nous a causé du dommage ou nous en causera, etc. En tant que nous l'imaginons ainsi, nous en affirmons l'existence, c'est-à-dire le corps n'éprouve aucune affection qui exclut l'existence de la chose. Et ainsi, proposition 17, partie 2, le corps est affecté par l'image de cette chose, de la même manière que si elle était présente. Comme toutefois, il arrive la plupart du temps que les personnes ayant déjà fait plus d'une expérience, pendant le temps qu'elles considèrent une chose comme future ou passée, sont flottantes et en tiennent le plus souvent l'issue pour douteuse. Voir Scoli de la proposition 44, partie 2. Il en résulte que les affections nées de semblables images ne sont pas aussi constantes et sont généralement troublées par des images de choses différentes jusqu'à ce que l'on ait acquis quelques certitudes au sujet de l'issue de la chose. Scoli 2. Nous connaissons par ce qui vient d'être dit ce que sont l'espoir, la crainte, la sécurité, le désespoir, l'épanouissement et le resserrement de conscience. L'espoir n'est rien d'autre qu'une joie inconstante née de l'image d'une chose future ou passée dont l'issue est tenue pour douteuse. La crainte, au contraire, est une tristesse inconstante également née de l'image d'une chose douteuse. Si maintenant de ces affections on ôte le doute, l'espoir devient la sécurité et la crainte le désespoir. J'entends une joie ou une tristesse née de l'image d'une chose qui nous affecte de crainte ou d'espoir. L'épanouissement, ensuite, est une joie née de l'image d'une chose passée dont l'issue a été tenue par nous pour douteuse. Le resserrement de conscience, enfin, est la tristesse opposée à l'épanouissement. Proposition 19. Qui imagine que ce qu'il aime est détruit sera contristé, et joyeux s'il l'imagine conservé. Démonstration. L'âme, autant qu'elle peut, s'efforce d'imaginer ce qui accroît ou seconde la puissance d'agir du corps, proposition 12, c'est-à-dire, Scoli de la proposition 13, ce qu'elle aime. Mais l'imagination est secondée par ce qui pose l'existence de la chose et réduite au contraire par ce qui l'exclut, proposition 17, partie 2. Donc, les images des choses qui posent l'existence de la chose aimée seconde l'effort de l'âme par lequel elle s'efforce de l'imaginer, c'est-à-dire, Scoli de la proposition 11, affecte l'âme de joie. Et au contraire, les choses qui excluent l'existence de la chose aimée réduisent cet effort de l'âme, c'est-à-dire, même Scoli, affecte l'âme de tristesse. Qui donc imagine que ce qu'il aime est détruit sera contristé, etc. CQFD. Proposition 20. Qui imagine que ce qu'il a en haine est détruit sera joyeux. Démonstration. L'âme, proposition 13, s'efforce d'imaginer ce qui exclut l'existence des choses par où la puissance d'agir du corps est diminuée ou réduite. C'est-à-dire, Scoli de la même proposition, elle s'efforce d'imaginer ce qui exclut l'existence des choses qu'elle a en haine. Et ainsi, l'image d'une chose qui exclut l'existence de ce que l'âme a en haine seconde cet effort de l'âme, c'est-à-dire, Scoli de la proposition 11, l'affect de joie. Qui donc imagine que ce qu'il a en haine est détruit sera joyeux. CQFD. Proposition 21. qui imagine ce qu'il aime, affecté de joie ou de tristesse, sera également affecté de joie ou de tristesse, et l'une et l'autre affection seront plus grandes ou moindres dans l'amant, selon qu'elles le seront dans la chose aimée. Démonstration. Les images des choses, comme nous l'avons montré dans la proposition 19, qui posent l'existence de la chose aimée, seconde l'effort de l'âme par lequel elle s'efforce d'imaginer cette chose. Mais la joie pose l'existence de la chose joyeuse, et cela d'autant plus que l'affection de joie est plus grande, car elle est, scoli de la proposition 11, un passage à une perfection plus grande. Donc, l'image de la joie de la chose aimée seconde dans l'amant l'effort de l'âme, c'est-à-dire, scoli de la proposition 11, affecte l'amant de joie, et cela, d'autant plus que cette affection aura été plus grande dans la chose aimée. Ce qui était le premier point. De plus, quand une chose est affectée de tristesse, elle est dans une certaine mesure détruite, et cela, d'autant plus qu'elle est affectée d'une tristesse plus grande. Même scoli de la proposition 11. Et ainsi, proposition 19, qui imagine que ce qu'il aime est affecté de tristesse, en est également affecté. Et cela, d'autant plus que cette affection aura été plus grande dans la chose aimée. C'est QFD. Proposition 22. Si nous imaginons que quelqu'un affecte de joie la chose que nous aimons, nous serons affectés d'amour à son égard. Si au contraire, nous imaginons qu'il l'affecte de tristesse, nous serons tout au rebours affectés de haine contre lui. Démonstration. Qui affecte de joie ou de tristesse la chose que nous aimons, il nous affecte aussi de joie ou de tristesse, puisque nous imaginons la chose que nous aimons affectée de cette joie ou de cette tristesse, proposition précédente. Mais on suppose que l'idée d'une cause extérieure accompagne cette joie ou cette tristesse. Donc, scoli de la proposition 13, si nous imaginons que quelqu'un affecte de joie ou de tristesse la chose que nous aimons, nous serons affectés d'amour ou de haine à son égard. C'est QFD. Scoli. La proposition 21 nous explique ce qu'est la commisération que nous pouvons définir comme la tristesse née du dommage d'autrui. Pour la joie née du bien d'autrui, je ne sais de quel nom il faut l'appeler. Nous appellerons en outre faveur l'amour qu'on a pour celui qui a fait du bien à autrui, et au contraire, indignation, la haine qu'on a pour celui qui a fait du mal à autrui. Il faut noter enfin que nous n'avons pas seulement de la commisération pour une chose que nous avons aimée, comme nous l'avons montré dans la proposition 21, mais aussi pour une chose à l'égard de laquelle nous n'avons eu d'affection d'aucune sorte, pourvu que nous la jugions semblable à nous, comme je le ferai voir plus bas. Et par suite, nous voyons aussi avec faveur celui qui a fait du bien à notre semblable, et sommes indignés contre celui qui lui a porté dommage. Proposition 23. Qui imagine affecté de tristesse ce qu'il a en haine sera joyeux, si au contraire il l'imagine affecté de joie, il sera contristé, et l'une et l'autre affection seront plus grandes ou moindres, selon que l'affection contraire sera plus grande ou moindre dans la chose haïe. Démonstration. Quand une chose odieuse est affectée de tristesse, elle est donc dans une certaine mesure détruite, et cela d'autant plus qu'elle est affectée d'une tristesse plus grande, Scoli de la proposition 11. Qui donc, proposition 20, imagine affecté de tristesse la chose qu'il a en haine, éprouvera l'affection contraire qui est la joie. Et cela d'autant plus qu'il imagine la chose odieuse affectée d'une tristesse plus grande. Ce qui était le premier point. Maintenant, la joie pose l'existence de la chose joyeuse, même Scoli de la proposition 11. Et cela, d'autant plus qu'on la conçoit plus grande. Si quelqu'un imagine affecter de joie la chose qu'il a en haine, cette imagination, proposition 13, réduira son effort, c'est-à-dire Scoli de la proposition 11, qu'il sera affecté de tristesse, etc. C'est QFD. Scoli, cette joie, ne peut guère être solide et sans combat intérieur, car, je vais le montrer dans la proposition 27, en tant qu'on imagine éprouvant une affection de tristesse une chose semblable à soi, on doit, dans une certaine mesure, être contristé. Et inversement, si on l'imagine affecté de joie. Mais nous n'avons égard ici qu'à la haine. Proposition 24. Si nous imaginons que quelqu'un affecte de joie une chose que nous avons en haine, nous serons affectés de haine à son égard. Si au contraire, nous imaginons qu'il l'affecte de tristesse, nous serons affectés d'amour à son égard. Démonstration. Cette proposition se démontre de la même manière que la proposition 22 ci-dessus. Scoli. Ces affections de haine et celles qui leur ressemblent se ramènent à l'envie, qui n'est donc rien d'autre que la haine même, en tant qu'on la considère comme disposant un homme à s'épanouir du mal d'autrui et à se contrister de son bien. Proposition 25. Nous nous efforçons d'affirmer de nous et de la chose aimée tout ce que nous imaginons qu'il affecte ou nous affecte de joie, et au contraire, de nier tout ce que nous imaginons qu'il affecte ou nous affecte de tristesse. Démonstration. Ce que nous imaginons qui affecte la chose aimée de joie ou de tristesse nous affecte aussi de joie ou de tristesse. Proposition 21. Mais l'âme, proposition 12, s'efforce autant qu'elle peut d'imaginer ce qui nous affecte de joie, c'est-à-dire, proposition 17, partie 2 et son corollaire, de le considérer comme présent. Et au contraire, proposition 13, d'exclure l'existence de ce qui nous affecte de tristesse. Nous nous efforçons donc d'affirmer de nous et de la chose aimée tout ce que nous imaginons qu'il affecte ou nous affecte de joie et inversement. C'est QFD. Proposition 26. Nous nous efforçons d'affirmer d'une chose que nous avons en haine tout ce que nous imaginons qu'il affecte de tristesse, et au contraire, de nier tout ce que nous imaginons qu'il affecte de joie. Démonstration. Cette proposition suit de la proposition 23 comme la précédente de la proposition 21. Scoli. Nous le voyons par là, il arrive facilement que l'homme fasse cas de lui-même et de la chose aimée plus qu'il n'est juste, et au contraire, de la chose qu'il hait moins qu'il n'est juste. Cette imagination, quand elle concerne l'homme lui-même qui fait de lui plus de cas qu'il n'est juste, s'appelle orgueil, et est une espèce de délire, puisque l'homme rêve les yeux ouverts, qu'il peut tout ce qu'il embrasse par sa seule imagination, le considère pour cette raison comme réel et en est ravi, tandis qu'il ne peut imaginer ce qui en exclut l'existence et limite sa propre puissance d'agir. L'orgueil, donc, est une joie née de ce que l'homme fait de lui-même plus de cas qu'il n'est juste. La joie, ensuite, qui naît de ce que l'homme fait d'un autre plus de cas qu'il n'est juste, s'appelle surestime. Et enfin, mésestime, celle qui naît de ce qu'il fait d'un autre moins de cas qu'il n'est juste. Proposition 27. Si nous imaginons qu'une chose semblable à nous et à l'égard de laquelle nous n'éprouvons d'affection d'aucune sorte, éprouve quelque affection, nous éprouvons par cela même une affection semblable. Démonstration. Les images des choses sont des affections du corps humain dont les idées nous représentent les corps extérieurs comme étant présents. Scoli de la proposition 17, partie 2. C'est-à-dire, proposition 16, partie 2, dont les idées enveloppent la nature de notre corps et en même temps la nature présente d'un corps extérieur. Si donc la nature d'un corps extérieur est semblable à celle de notre corps, l'idée du corps extérieur que nous imaginons enveloppera une affection de notre corps semblable à celle du corps extérieur. Et, conséquemment, si nous imaginons quelqu'un de semblable à nous, affecté de quelque affection, cette imagination enveloppera une affection semblable de notre corps. Par cela même, donc, que nous imaginons qu'une chose semblable à nous éprouve quelque affection, nous éprouvons une affection semblable à la sienne. Que si, au contraire, nous avions en haine une chose semblable à nous, nous éprouverions, proposition 23, dans la mesure de notre haine, une affection contraire et non semblable à la sienne. C'est QFD. Scoli, cette imitation des affections, quand elle a lieu à l'égard d'une tristesse, s'appelle commisération. Voir Scoli de la proposition 22. Mais, si c'est à l'égard d'un désir, elle devient l'émulation, qui n'est rien d'autre que le désir d'une chose engendrée en nous, de ce que nous imaginons que d'autres êtres semblables à nous en ont le désir. Corollaire 1. Si nous imaginons que quelqu'un, à l'égard de qui nous n'éprouvions d'affection d'aucune sorte, affecte de joie une chose semblable à nous, nous serons affectés d'amour envers lui. Si au contraire, nous imaginons qu'il l'affecte de tristesse, nous serons affectés de haine envers lui. Démonstration. Cela se démontre par la proposition précédente, de même manière que la proposition 22 par la proposition 21. Corollaire 2. Si une chose nous inspire de la commisération, nous ne pouvons l'avoir en haine à cause de la tristesse dont sa misère nous affecte. Démonstration. Si en effet, nous pouvions l'avoir en haine, alors, proposition 23, nous serions joyeux de sa tristesse, ce qui est contre l'hypothèse. Corollaire 3. Si un objet nous inspire de la commisération, nous nous efforcerons, autant que nous pourrons, de le délivrer de sa misère. Démonstration. Ce qui affecte de tristesse l'objet qui nous inspire de la commisération, nous affecte d'une tristesse semblable. Proposition précédente. Par suite, nous nous efforcerons de nous rappeler tout ce qui ôte l'existence de cette chose ou la détruit. Proposition 13. C'est-à-dire, Scoli de la proposition 9, nous aurons l'appétit de le détruire ou seront déterminés vers sa destruction. Et ainsi, nous nous efforcerons de délivrer de sa misère l'objet qui nous inspire de la commisération. C'est QFD. Scoli. Cette volonté ou cet appétit de faire du bien, qui naît de notre commisération à l'égard de la chose à laquelle nous voulons faire du bien, s'appelle bienveillance. Et ainsi, la bienveillance n'est rien d'autre qu'un désir né de la commisération. Au sujet de l'amour et de la haine, pour celui qui fait du bien et du mal à la chose que nous imaginons semblable à nous, voir, d'ailleurs, Scoli de la proposition 22. Proposition 28. Tout ce que nous imaginons qui mène à la joie, nous nous efforçons d'en procurer la venue. Tout ce que nous imaginons qui lui est contraire ou mène à la tristesse, nous nous efforçons de l'écarter ou de le détruire. Démonstration. Ce que nous imaginons qui mène à la joie, nous nous efforçons autant que nous pouvons de l'imaginer. Proposition 12. C'est-à-dire, proposition 17, partie 2, nous nous efforçons autant que nous pouvons de le considérer comme présent ou comme existant en acte. Mais, entre l'effort de l'âme ou la puissance qu'elle a en pensant, et l'effort du corps ou la puissance qu'il a en agissant, il y a par nature parité et simultanéité, comme il suit clairement du corollaire de la proposition 7 et du corollaire de la proposition 11, partie 2. Donc, nous faisons effort absolument parlant pour que cette chose existe. C'est-à-dire, ce qui revient au même d'après le Scoli de la proposition 9, nous en avons l'appétit et y tendons, ce qui était le premier point. Maintenant, si nous imaginons que ce que nous croyons être cause de tristesse, c'est-à-dire, Scoli de la proposition 13, ce que nous avons en haine est détruit, nous serons joyeux, proposition 20. Et ainsi, nous nous efforcerons de les détruire pour la première partie de cette démonstration, c'est-à-dire, proposition 13, de l'écarter de nous, afin de ne le point considérer comme présent, ce qui était le second point. Donc, tout ce qui peut mener à la joie, etc., c'est QFD. Proposition 29. Nous nous efforcerons aussi à faire tout ce que nous imaginons que les hommes verront avec joie, et nous aurons en aversion de faire ce que nous imaginons que les hommes ont en aversion. Démonstration. Si nous imaginons que les hommes aiment une chose ou l'ont en haine, par cela même nous l'aimerons ou l'aurons en haine. Proposition 27. C'est-à-dire, Scoli de la proposition 13, par cela même, la présence de cette chose nous rendra joyeux ou nous contristera. Et ainsi, proposition précédente, nous nous efforcerons à faire tout ce que nous imaginons qu'aiment les hommes ou qu'ils verront avec joie, etc. C'est QFD. Scoli. Cet effort pour faire une chose et aussi pour nous en abstenir, afin seulement de plaire aux hommes, s'appelle ambition, surtout quand nous nous efforçons à plaire aux vulgaires avec une propension telle que nous agissons ou nous abstenons à notre propre dommage ou à celui d'autrui. Autrement, on a coutume de l'appeler humanité. J'appelle ensuite louange la joie que nous éprouvons à imaginer l'action d'autrui par laquelle il s'efforce de nous être agréable, et blâme la tristesse que nous éprouvons quand nous avons l'action d'autrui en aversion. Proposition 30. Si quelqu'un a fait quelque chose qu'il imagine qui affecte les autres de joie. Il sera affecté d'une joie qu'accompagnera l'idée de lui-même comme cause, si au contraire, il fait quelque chose qu'il imagine qui affecte les autres de tristesse, il se considérera lui-même avec tristesse. Démonstration. Qui imagine qu'il affecte les autres de joie ou de tristesse sera, par cela même, proposition 27, affecté de joie ou de tristesse. Puis donc, que l'homme, proposition 19 et 23, partie 2, a conscience de lui-même, par les affections qui le déterminent à agir, qui a fait quelque chose qu'il imagine qui affecte les autres de joie, sera affecté de joie, avec conscience de lui-même comme cause, c'est-à-dire se considérera lui-même avec joie et inversement. C'est QFD. Scoli. L'amour étant une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Scoli de la proposition 13. Et la haine, une tristesse qu'accompagne aussi l'idée d'une cause extérieure. Cette joie et cette tristesse seront donc également une espèce d'amour et de haine. Comme toutefois, l'amour et la haine se rapportent à des objets extérieurs. Nous désignerons ici ces affections par d'autres noms. Nous appellerons gloire une joie qu'accompagne l'idée d'une cause intérieure, et honte la tristesse contraire, quand la joie et la tristesse naissent de ce que les hommes se croient loués ou blâmés. Dans d'autres cas, j'appellerai contentement de soi la joie qu'accompagne l'idée d'une cause intérieure, et repentir la tristesse opposée à cette joie. Comme il peut arriver maintenant, corollaire de la proposition 17, partie 2, que la joie dont quelqu'un imagine qu'il affecte les autres soit seulement imaginaire, et que, proposition 25, chacun s'efforce d'imaginer au sujet de lui-même tout ce qu'il imagine qu'il affecte de joie, il pourra facilement arriver que le glorieux soit orgueilleux et s'imagine être agréable à tous alors qu'il leur est insupportable. Proposition 31. Si nous imaginons que quelqu'un aime ou désire ou a en haine ce que nous-mêmes aimons, désirons ou avons en haine, notre amour, etc., deviendra par cela même plus constant. Si au contraire, nous imaginons qu'il a en aversion ce que nous aimons, ou inversement, nous éprouverons la passion dite « fluctuation de l'âme ». Démonstration. Si nous imaginons que quelqu'un aime quelque chose, nous aimerons cette chose par cela même, proposition 27. Mais supposons que nous l'aimons sans cela. Cet amour sera donc alimenté par la survenue d'une cause nouvelle. Et par suite, nous aimerons par cela même de façon plus constante ce que nous aimons. Si maintenant nous imaginons que quelqu'un a quelque chose en aversion, nous aurons cette chose en aversion, même proposition. Si nous supposons qu'à ce moment, nous l'aimons, nous aurons en même temps, pour cette même chose, de l'amour et de l'aversion, c'est-à-dire, scoli de la proposition 17, que nous éprouverons la passion dite « fluctuation de l'âme ». C'est QFD. Corollaire. Il suit de là et de la proposition 28 que chacun, autant qu'il peut, fait effort pour que tous aiment ce qu'il aime lui-même et haïssent ce qu'il a lui-même en haine. D'où ce mot du poète « Amant, nous voulons tout ensemble, espérer et craindre, il est de faire celui qui aime avec la permission d'un autre. » Scoli. Cet effort pour faire que chacun approuve l'objet de notre amour et de notre haine est en réalité de l'ambition. Voir Scully de la proposition 29. Nous voyons ainsi que chacun a, de nature, l'appétit de voir vivre les autres selon sa propre complexion. Et, comme tous ont un pareil appétit, on se fait ensuite obstacle l'un à l'autre, et parce que tous veulent être loués ou aimés par tous, on en vient à une haine mutuelle. Proposition 32. Si nous imaginons que quelqu'un tire de la joie d'une chose qu'un seul peut posséder, nous nous efforcerons de faire qu'il n'en ait plus la possession. Démonstration. Par cela seul que nous imaginons que quelqu'un tire d'une chose de la joie, proposition 27 avec son corollaire 1, nous aimerons cette chose et désirerons en tirer de la joie. Mais, par hypothèse, nous imaginons que l'obstacle à cette joie vient de ce qu'un autre en tire de la joie. Nous ferons donc l'effort, proposition 28, pour qu'il n'en ait plus la possession. C'est QFD. Scully. Nous voyons ainsi qu'en vertu de la disposition de leur nature, les hommes sont généralement prêts à avoir de la commisération pour ceux qui sont malheureux et à envier ceux qui sont heureux, et que leur haine pour ces derniers est, proposition précédente, d'autant plus grande qu'ils aiment davantage ce qu'ils imaginent dans la possession d'un autre. Nous voyons en outre que la même propriété de la nature humaine, d'où suit qu'ils sont miséricordieux, fait aussi qu'ils sont envieux et ambitieux. Enfin, si nous voulions consulter l'expérience, nous éprouverions qu'elle nous enseigne tout cela, surtout si nous avions égard à nos premières années. L'expérience nous montre en effet que les enfants dont le corps est continuellement comme en équilibre rient ou pleurent par cela seul qu'ils voient d'autres personnes rire ou pleurer. Tout ce qu'ils voient faire par autrui, ils désirent aussitôt l'imiter. Et ils désirent enfin tout ce à quoi ils imaginent que d'autres prennent plaisir. C'est qu'en effet, nous l'avons dit, les images des choses sont les affections mêmes du corps humain, c'est-à-dire les manières dont ce corps est affecté par les causes extérieures et disposé à faire ceci ou cela.